haute fréquence, Nathalie Bloch.
Parmi les chrétiens, ce sont eux qui ont le vent en poupe. Ils sont évangéliques, charismatiques ou pentecôtistes, mais depuis toujours, ils se méfient des églises dites historiques. Alors ce qui s'est passé début novembre au Kenya, avec un forum qui réunissait pour la première fois ces deux frères ennemis du christianisme, est une petite révolution. On fait le point tout à l'heure avec Michel Kocher et son invité Hubert Van Beek. Il vit coupé du monde, dans les couloirs de la mort depuis 17 ans. Il s'appelle Alonzo Burgess et sa prison, c'est le pénitencier d'Atmore, en Alabama. Fabien Unenberger correspond avec Alonzo depuis plusieurs années. Il nous livre ce soir le récit de leur première rencontre en chair et en os. C'était cet été dans le sud des États-Unis. Vous écoutez Haute Fréquence, bienvenue à vous.
Il est 9h30 du soir, je suis dans une chambre d'hôtel à Atmore, donc à quelques kilomètres de la prison d'Alonzo. Et comme c'est la veille de la visite, j'ai un peu fait de l'ordre, j'ai étalé sur mon lit les différentes choses que j'ai le droit de prendre. Maintenant, mes sentiments par rapport à demain. D'abord, j'ai un peu peur quand même, parce que ça fait penser au franchissement d'une frontière, d'aller retrouver quelqu'un comme Alonzo. Enfin, je serai sa première visite non légale, donc si j'exclus ses avocats, depuis des années et des années, quoi. Donc c'est comme une sacrée responsabilité. Je ne sais même pas d'ailleurs dans quelle mesure lui-même je peux imaginer qu'il s'est réjoui, comment est-ce qu'il s'est projeté dans cette visite, je ne sais pas. Voilà, enfin, je ne sais pas très bien jusqu'où je peux aller dans les récits que je vais lui faire.
Cette semaine, le 30 novembre en particulier, le débat autour de la peine de mort sera à nouveau à l'ordre du jour puisque 4 ONG, dont l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, la communauté de Saint-Égidio, mais aussi Amnesty International, ont déclaré depuis plusieurs années cette journée du 30 novembre une journée vile pour la vie, vile contre la peine de mort. C'est la deuxième fois que ça se passe en Suisse. Cette année, 15 grandes villes de Suisse, dont plusieurs de Suisse romande, vont organiser des actions, des illuminations aussi de bâtiments symboliques où les villes prennent position contre la peine de mort. Alors c'est de ça qu'on parle ce soir dans Haute Fréquence. Fabien Unenberger, bonsoir.
Bonsoir Nathalie.
Alors ce soir, vous changez un peu de posture exceptionnellement. Vous êtes coproducteur de Haute Fréquence. Ce soir, vous allez devenir témoin. En quelque sorte, c'est vous qui allez raconter l'histoire de quelqu'un qui est condamné à mort. Ce quelqu'un, c'est Alonzo Burgess. C'est l'un des 3000 hommes et femmes qui sont condamnés à mort, qui sont dans les couloirs de la mort aux États-Unis, en Alabama en particulier. Et c'est quelqu'un avec qui vous correspondez depuis plusieurs années. Alors comment on en arrive à correspondre avec un condamné à mort aux États-Unis ?
Alors, je dirais d'abord c'est le deuxième condamné à mort avec lequel je corresponds. Je correspondais avant avec un autre condamné qui a été exécuté. Au départ, en fait, c'est un choix de se rapprocher de personnes qui sont complètement coupées du monde, qui ont cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Puis l'envie simplement d'être humain et proche humainement de ces gens.
Alors, Alonzo Burgess, vous nous dites quelques mots de ce personnage. Quel âge il a ?
Alors oui, c'est un homme qui a une quarantaine d'années, noir. Donc d'Alabama, qui a grandi dans un environnement blanc, en tout cas c'est ce qu'il raconte dans ses lettres, quelqu'un, on va dire physiquement d'assez musclé comme ça, plutôt petit de taille, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur lui là, un enfant d'un premier mariage, une grand-mère auquel il tient énormément, et puis malheureusement le reste de sa famille s'est détaché de lui quand il a été condamné et emprisonné. Donc ça fait maintenant 17 ans qu'il est en prison.
D'accord. Et il est innocent, il est criminel, il est faute avérée. Qu'a dit le jugement ?
Alors, on va dire la chose suivante. Il reconnaît avoir tué son ami. Par contre, il réfute, et c'est pour cette raison-là qu'il a été condamné à mort, il réfute avoir tué les deux enfants de son ami.
Alors à la base, Fabien Unenberger, l'idée c'était d'aller en Alabama cet été pour interviewer Alonzo Burgess, mais ça vous a été refusé.
Ça m'a été refusé, on va dire en deux lignes, par le responsable de la communication du département pénitentiaire de l'Alabama. C'est contre la loi de l'Alabama, on ne peut pas interviewer un condamné à mort.
Donc vous n'avez pas pris votre enregistreur avec vous, mais vous vous êtes enregistré vous-même via le dictaphone pour faire quelque part le journal de bord de la personne qui va rencontrer pour la première fois un condamné à mort.
Bah oui, effectivement. D'autant que pour moi, c'était comme assez, on va dire, émotionnant. C'était la première fois que j'allais le rencontrer en chair et en os. Donc voilà, pour moi, c'était pas rien de partir aller voir quelqu'un avec lequel je corresponds depuis 7 ans maintenant.
Alors, on vous retrouve, Fabien Hunenberger, au micro de votre dictaphone. Au moment de boucler votre valise, vous êtes encore à Lausanne. C'était donc début juillet. Un dictaphone qui va vous accompagner jusqu'aux portes du pénitencier. Et ensuite, puisque vous n'avez pas pu le prendre avec vous, à la sortie du pénitencier.
Oh là là là, ah oui, ça c'est la fameuse lettre. Alors c'est dans cette lettre-là qui, en fait, nous raconte deux ou trois choses sur ce qui se serait passé et qui lui a valu en fait sa condamnation. Enfin, ce que lui dit, c'est qu'il a tué sa copine, mais qu'il n'a pas tué les enfants de sa copine. Il dit qu'il n'a pas de souvenir, qu'il s'est shooté, je crois, au crack. Puis qu'il a passé la journée à chercher quelqu'un qui pouvait lui en fournir. Et à ce moment-là, quand il est revenu, il a découvert le corps des enfants qui avaient été tués, quoi. Ah, j'étais à la police, en fait, mais il n'y avait pas d'officier. C'est une toute petite ville, il n'y a que 3 policiers. Ensuite, semble-t-il, voilà, sa copine, à un moment donné, est revenue à la maison. Il était là, il a essayé de l'expliquer, mais elle est devenue furieuse. J'ai paniqué, et je l'ai frappé, et je l'ai tué. Voilà. Ça, c'est ce que dit Alonso. À l'aéroport, à Genève, je suis dans la zone internationale, et j'étais en train de penser à Alonso. Je me disais, dans le fond, qu'est-ce qu'il est en train de faire maintenant? Ça devient de plus en plus concret, la rencontre que je vais avoir avec lui. Je me disais aussi, en pensant aux minutes là qui sont en train de s'écouler, combien pour lui les minutes doivent être longues. Et puis surtout, ce qui tourne dans ma tête, c'est de me dire qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire pendant 6 heures, parce que c'est pendant vraiment 6 heures pleines qu'on va se retrouver l'un en face de l'autre. Et voilà, bah, j'ai fait tout à l'heure avec quelques amis, avec ma femme, un peu le tour des choses que je pourrais lui dire, les salutations des uns, des autres, qu'est-ce qu'il faudrait, ouais, que je fasse exister un peu de l'extérieur, des choses importantes.
Merci de votre patience, nous invitons maintenant tous les passagers embarqués en porte C15 pour l'embarquement, merci.
Bon, là je vais devoir m'interrompre, mais dans le fond c'est un petit peu ça qui m'habite à l'instant, de me dire mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire pendant 6 heures. J'ai peur qu'il me presse de demandes financières, qu'il me demande des choses impossibles, voilà. Il est 9h30 du soir, je suis dans une chambre d'hôtel à Atmore, donc à quelques kilomètres de la prison d'Alonso. Et comme c'est la veille de la visite, j'ai un peu fait de l'ordre, j'ai étalé sur mon lit les différentes choses que j'ai le droit de prendre. Puisque en fait il y a une liste assez précise. Alors bon, j'ai rempli une sorte de petite pochette, comme celle qu'on utilise pour les avions. Avec d'autres choses que j'ai le droit de prendre. Maintenant, mes sentiments par rapport à demain. D'abord, j'ai un peu peur quand même, parce que ça fait penser au franchissement d'une frontière, d'aller retrouver quelqu'un comme Alonso. Même si je sais que moi je peux ressortir et puis que lui, ben voilà, il ne sort pas. Enfin, je serai sa première visite non légale, donc si j'exclus ses avocats depuis des années et des années, quoi. Donc c'est comme une sacrée responsabilité. Je ne sais même pas d'ailleurs dans quelle mesure lui-même je peux imaginer qu'il s'est réjoui, comment est-ce qu'il s'est projeté dans cette visite, je ne sais pas. Et puis on verra quelles questions il va me poser sur mon travail, sur ma famille, sur, sur mes enfants. Enfin, je ne serais peut-être pas forcément très à l'aise pour répondre à ces questions, notamment sur ma famille. Enfin, je pense au tout premier temps, quand on a commencé à entrer en dialogue avec Alonso, puis qu'on a appris que dans son histoire, il y avait des enfants qui étaient morts. C'est vrai qu'on s'est interrogé, mon épouse et moi, en se disant, mais qu'est-ce qu'on va faire, quoi, avec, est-ce qu'on va oser lui raconter des choses intimes, liées à la famille, liées aux enfants, dans l'idée que voilà, bah, si un jour il échappe à la peine de mort, s'il échappe à la condamnation à mort, et puis qu'il est condamné à prison pour une longue durée, bah, un jour il sort, et peut-être qu'il nous rend visite. On n'était pas forcément, au départ, en tout cas, très à l'aise par rapport à ça. Alors on l'est sans doute un peu plus maintenant, mais... Voilà, enfin, je sais pas très bien jusqu'où je peux aller dans les récits que je vais lui faire. Alors, qu'est-ce que c'est marqué ? Voilà, et voilà, je vois la prison cette fois. Sur deux blocs, sur trois étages, comme ça, en forme de L. Je sais pas très bien où je dois aller. Je vais tout droit, j'ai peut-être dû manquer l'entrée. Est-ce que ça, les visiteurs c'est là-bas, faut que je vois. Je pose le truc, j'espère qu'on m'entend encore un petit peu, faut que je parle un peu plus fort. Là je longe la prison, je vois des sortes de courtyard. Là il y a des détenus, je les vois en blanc comme ça dans leur dans la cour, il y a des sortes de grillages comme ça. Je vais tourner ici pour aller me parquer et puis pour entrer. Oh, oh, oh mince alors. Ben, je suis devant la prison. On est vraiment dans une sorte de grande clairière avec cette prison là. Voilà, une sorte de clairière un peu vallonnée comme ça, puis il y a la prison derrière moi. Alors, je vais rassembler tout mon matériel et puis je vais y aller. J'ai pris mes 20 dollars, mon passeport, ma petite monnaie. Il faudra que je prenne les clés de voiture. Voilà. Et puis là, je vais devoir interrompre le dictaphone. Je vais le remettre ici là-dedans en espérant garder la mémoire de tout ce que j'entendrai tout à l'heure. Je suis lessivé, je sors là de 6 heures de discussion avec Alonso. Fatigué. Bon, pour essayer un peu de partir du commencement, pour vous dire un peu comment ça s'est passé. Donc je me suis parqué, j'ai encore vérifié que j'avais vidé mes poches. Et je me suis approché à ce moment-là du grillage. J'ai découvert à ce moment-là une porte double à travers un grillage double. Et puis une femme qui se trouvait là près de cette porte. J'ai demandé si c'était l'entrée. Alors, son réflexe a été de me désigner de la main un mirador qui se trouvait, qu'est-ce qu'on va dire, à une dizaine de mètres de la clôture, et puis de m'adresser au mirador. Alors, je me suis approché du mirador. Là, il y a effectivement un policier qui est sorti du mirador, qui m'a interpellé en me disant ce que je voulais. Et puis voilà, j'ai expliqué que je voulais entrer. Donc à ce moment-là, il a appelé quelqu'un à l'intérieur, qui est sorti du bâtiment dans une porte qui n'avait absolument aucune indication, et qui est venu nous ouvrir à cette femme et à moi, qui nous a donné quelques indications. Entre-temps, il y a un monsieur qui s'est joint à nous, qui venait voir son petit-fils, un monsieur de Birmingham, donc plutôt du nord de l'Alabama, qui venait voir son petit-fils emprisonné là. Il m'a dit qu'il venait une fois par mois. À ce moment-là, une fois entré, on nous a fouillés, et puis là, on se trouvait derrière une grille. Et après avoir franchi cette grille, on s'est retrouvé à l'intérieur de la prison. Et puis voilà, enfin je figurais parmi les premiers visiteurs à arriver. Et on s'est installé. Voilà. Donc Alonso n'était pas encore là quand je suis arrivé. Je me suis placé à une table. Le monsieur qui venait voir son petit-fils à une autre. Et encore une dame qui s'est placée encore un troisième endroit. Pièce assez claire, grand ventilateur, un énorme bruit. Qui couvrait d'ailleurs pas mal les conversations des uns et des autres. Des tables fixées au sol, des chaises en plastique blanche, amovibles. Je me suis assis là à une des tables, un peu branlante, et Alonso est arrivé. On s'est serré la main, on s'est fait une accolade. Et c'est vrai que c'est quand même assez fort. Là, ça m'a fait quelque chose d'être physiquement en contact avec lui. Ça fait 7 ans qu'on s'écrit, et puis c'était la première fois qu'on se touchait physiquement, qu'on se sentait physiquement. Puis c'est un type qui est très baraqué. Alors il est plutôt petit et un peu trapu, mais il a des sacrés muscles comme ça. Et tout de suite, voilà, on a parlé des lettres qu'on s'était échangées récemment. Il m'a demandé, voilà, comment s'était passé mon arrivée, où j'étais allé, où j'allais partir, puis pourquoi est-ce que j'étais là. Enfin, si j'étais là aussi pour le travail ou que pour lui. Enfin, c'est des questions qui sont venues très rapidement sur le tapis. Et puis ensuite, on a parlé aussi de choses, un peu de la vie en prison. On a tout d'un coup switché aussi sur l'alcool. Je sais pas ce qui nous a fait partir là-dessus. Et ça l'a fait partir vers un souvenir. Il s'est remémoré aussi tous les moments où, quand il était petit, là, il participait à des alambics clandestins. Et puis, parmi les choses, voilà, qu'on a évoquées, ensuite on a parlé de la visite de ses avocats. Il m'a redit aussi combien pour lui c'était vraiment important d'avoir des visites. Enfin, il me rappelait, il m'a donné plein de petits détails aussi sur ce qui se passe quand il a des visites. En fait, c'était la première fois qu'il voyait la salle de visite en temps de visite normale, puisque normalement, en fait, quand il a des visites, ce sont jusqu'à présent exclusivement des visites légales, donc ça se passe à un autre moment dans la semaine, il y a moins de monde, voire même pas de monde. Et puis là, il était un peu surpris, voilà, de voir tout ce monde. Ça, c'était un vrai dépaysement, parce que d'habitude, il ne voit que les têtes des gardiens ou que les têtes des autres camarades et personne d'autre. Et là, il était un peu, à certains moments, le regard qui se perdait à gauche et à droite pour voir ce qui se passait, etc., les uns, les autres. Il faut dire qu'au plus fort de la matinée, on s'est trouvé quand même avec bien 25 à 30 personnes dans la pièce, plus les condamnés à mort, avec le bruit toujours de ce ventilateur qui tournait, qui tournait, qui tournait. Et puis voilà, puis le temps a passé. Alors, à certains moments, le temps a passé extrêmement vite, quand il a commencé aussi à raconter ses souvenirs d'enfance, quand il a commencé aussi à me raconter, par exemple, où il en était dans ses démarches avec ses avocats, les contacts qu'il avait avec eux. Il m'a demandé aussi de raconter un petit peu comment allaient mes enfants. Ça, il y a un long passage où j'ai raconté aussi au niveau de l'école, où ils en étaient, au niveau du sport, on parlait du football américain, etc. On a vraiment alterné des conversations sérieuses avec les récits aussi de ma propre vie, les récits de sa vie, les souvenirs. Il m'a évoqué, par exemple, à un moment donné, il a parlé beaucoup de la générosité de sa mère et de sa grand-mère, qui étaient vraiment des figures de référence pour sa vie, pour sa famille. Il m'a parlé aussi de sa moralité. À un moment donné, par exemple, il racontait un souvenir que sa mère a exigé de lui, sa mère a découvert plus exactement, qu'en fait il allait marauder, il allait piquer dans des champs de maïs, du maïs qu'il revendait ensuite, et qu'un jour qu'elle a découvert ça, alors qu'il était en train de vendre, donc elle en vendait des sacs de maïs, et elle l'a obligé à rapporter le maïs et l'argent qu'il avait gagné au fermier qu'il avait volé. On a évidemment beaucoup parlé aussi de ségrégation raciale, du destin inégal aussi des blancs et des noirs. Lui avait le souvenir très très fort en étant dans sa période avant la prison, avant d'entrer en prison en 1993, de ségrégation raciale forte. Donc il a aussi beaucoup parlé de sa condition de noir parmi les blancs, parce que là j'ai aussi appris que, par exemple, il s'est trouvé comme seul noir très longtemps dans cette région de Iuka, donc la frontière entre le Mississippi et l'Alabama, comme étant noir parmi des sociétés blanches, dans une école blanche, dans un club de baseball blanc, à fréquenter des femmes blanches. Et là, semble-t-il, ça lui a valu un certain nombre de rancœurs de la part de gens du coin. Alors tout ça, voilà, c'est sorti un petit peu au fil de nos conversations. On a beaucoup parlé, ça c'était toute la fin de notre conversation, on a beaucoup parlé aussi de son métier. En fait, il était pilote de grue dans une carrière d'extraction de pierre. Alors, il me racontait les explosions, il me racontait son travail, il me racontait les pelletés, les immenses pelletés de cailloux qu'il ramassait avec son énorme engin. Et puis, bien sûr, son affaire aussi. On a beaucoup parlé du procès, de savoir où il en était. Alors, il espère maintenant, de la part de ses avocats, qu'il fasse tout un travail d'investigation. Et un travail légal aussi pour mettre en valeur, les circonstances atténuantes. Et ça, c'est vraiment les deux choses que j'ai vraiment appris, qu'il a beaucoup développé, à savoir qu'il espère que l'équipe de quatre personnes qui travaillent pour lui actuellement, ce sont des nouveaux avocats, que leur travail d'investigation permettra de résoudre un certain nombre d'incohérences dans son affaire. Alors voilà, puis on a parlé de choses et d'autres, c'est difficile, c'était forcément très très décousu. On a posé beaucoup de questions sur le sport que faisaient mes enfants, sur celui que je faisais. On a parlé pêche par exemple, il faudra qu'on s'échange les noms des poissons que lui pêchait dans les rivières et les lacs de l'Alabama, puis moi il voulait savoir ce que je pêchais. Autour de nous, là, ça bruissait de conversation, il y avait un peu de tout, il y avait ce grand-papa qui était avec son petit-fils, il y avait des familles entières qui étaient en pleurs au moment de la séparation, il y avait visiblement des compagnes, il y avait quelques enfants aussi qui étaient là. Et puis voilà, tout ce petit monde dans cette salle, certains sortant de temps en temps pour aller aux toilettes, mais toujours avec le gardien à la porte qui ouvrait, qui fermait avec un cadenas. Voilà, je m'arrête là, j'ai un peu sorti tout ce que j'avais là à l'instant. Toujours vendredi 13, 14h45, donc ça fait à peine une heure que j'ai quitté Alonzo. J'ai rajouté quelques miles en plus vers le nord, ce qui m'a donné un peu le temps de méditer, de réfléchir un petit peu plus profondément aussi à la rencontre qu'on vient de vivre. Et puis, l'image qui m'est venue en tête, c'est celle de deux fantômes qui se rencontrent. Je veux dire par là que quelque part, ça fait des années qu'on a une présence l'un pour l'autre par l'être, et tout d'un coup, voilà, on se voit en chair et en os, et on se reverra plus en chair et en os pendant très longtemps. Même si on s'est dit, même si je lui ai dit que je reviendrai, qu'on se reverra, ou dans quelles circonstances, avec quel espoir de liberté un jour, je sais pas, mais qu'on allait se revoir, ça je le lui ai dit. On est quand même deux fantômes qui se rencontrent, parce que voilà, il y a cette correspondance qui se fait à distance, parce que c'est pas tous les jours qu'on va se voir, surtout parce qu'on vit dans des univers tellement différents. Je me rendais compte en discutant avec lui que comme beaucoup d'Américains, la Suisse et la Suède, même si ça fait 7 ans qu'on correspond, ils confondaient, ils pensaient que je parlais suédois. Donc c'est vrai qu'on est dans des vies complètement différentes, quoi. Puis j'imagine que je dois être un peu l'extraterrestre qui débarque, en même temps il se réjouissait de la visite. Et puis j'ai découvert aussi, par les regards qu'il jetait aux autres condamnés, par la manière dont il regardait un peu les détenus, par les petits accommodements qu'il essayait d'obtenir sans trop insister. Enfin, on voit bien qu'il y a des jeux de pouvoir assez précis et des codes qu'il doit respecter. Voilà, que c'est ça. Il a une vie dans la prison, quoi. Puis après 13 ans, il sait comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire, la psychologie des autres. Enfin voilà, je mettais un peu les pieds dans son monde, tout en l'amenant lui un peu au limbe de son propre monde, puisque cet espace-là dans lequel se font les visites, il y va rarement. La plupart du temps, il mange pas avec les gens, parce que ses avocats restent trop peu de temps. Il voit pas d'autres détenus, il voit pas d'autres familles. Donc je pense qu'on était les deux quelque part dans des limbes, lui et moi, au même moment. Et puis en même temps, ça s'est passé comme ça devait se passer, comme deux amis qui se rencontrent au restaurant, qui ne se sont pas vus depuis longtemps, et puis qui sont heureux, qui se font la collade, etc. Et puis en même temps, c'est un cadavre ambulant. C'est un homme qui est condamné à mort. Ça veut dire que si ses appels ne sont pas entendus, si la procédure va au bout, c'est un homme qui est un homme mort. J'ai parlé à un homme mort. Et ça fait quand même quelque chose. J'y repensais de temps à autre en le voyant, en regardant ses habits, sur lesquels c'était marqué département correctionnel de l'Alabama, sur lequel il y avait son numéro, son nom, son numéro avec le Z559, qui est son matricule de prisonnier. Et je me disais, tiens, mais cet homme-là, avec lequel je parle tout à fait normalement, et c'est un homme qui vit avec l'épée de Damoclès d'avoir une date d'exécution qui lui est fixée. Et il disait que dans la prison, il y en avait plusieurs qui avaient aujourd'hui leur date d'exécution fixée. Une prison dans la prison, quoi. On se retrouve avec une date d'exécution.
C'était votre carnet de route, Fabien Unenberger, carnet de route en Alabama cet été, auprès de Alonzo Burgess, cet homme avec qui vous correspondez depuis 7 ans, condamné à mort en Alabama. Fabien, il y a quelques mois qui se sont écoulés depuis le moment de cet enregistrement. Vous avez des nouvelles d'Alonzo ?
Oui, on s'est écrit depuis. Je dirais qu'il y a même une petite bonne nouvelle, à savoir que son fils, avec lequel il n'avait pratiquement plus de contact, va peut-être lui rendre visite. En tout cas, il y a une reprise de contact. Jusqu'au 18 ans de son fils, c'était pas imaginable. L'État de l'Alabama interdisait une rencontre. Et là, le fils reprend contact, peut-être qu'il va venir lui rendre visite en prison.
Vous le disiez dans vos confidences au dictaphone, quand même rencontrer quelqu'un qui avoue avoir tué son ami, de nouveau, c'est pas banal. Ça aussi, au niveau de sa foi personnelle, de la foi qu'on a en l'être humain, qu'est-ce que ça génère de se trouver face à quelqu'un comme ça ?
Bon, je dirais deux choses. Je dirais d'abord, il y a la question de l'innocence. J'ai pas les moyens de savoir jusqu'où Alonzo est ou n'est pas innocent. Mais je sais, pour avoir discuté avec beaucoup de gens aux États-Unis, des avocats notamment, qu'il y a beaucoup d'innocents, de gens qui sont dans le couloir de la mort, qui sont innocents. C'est pas tout à fait le cas d'Alonzo, et c'est vrai que ça pose une question un peu différente, qui est celle de quelqu'un qui a tué. Mais, alors ça c'est ma conviction vraiment personnelle, je suis vraiment convaincu qu'une société, enfin celle où je vis, doit pour les criminels garder ne serait-ce qu'un tout petit espoir de libération. On peut pas jeter les gens à la poubelle en les exécutant ou en les maintenant en prison en jetant la clé quelque part. Aux États-Unis, je m'en suis rendu compte, la prison à perpétuité sans possibilité de libération est devenue une sorte de peine de mort bis. On met les gens à la poubelle et on jette la clé. Et ça, pour moi, c'est insupportable. Et d'avoir rencontré Alonzo, d'avoir vu ce que signifie peine de mort au quotidien, dans le sens aucune possibilité d'évoluer, finalement, ça, je trouve que c'est pas digne.
Fabien Unenberger, est-ce qu'on a des nouvelles d'une éventuelle révision de la peine de Alonzo Burgess ?
Alors, toutes les possibilités au niveau de l'État de l'Alabama, c'est terminé. Le dernier mot de la Cour suprême d'Alabama a été donné. Par contre, il commence un nouvel étage de procédure au niveau fédéral. Alors là, il y aura un premier procès, sans doute dans les prochains mois. Difficile à dire ce que ça va donner. Il est très content de sa nouvelle équipe d'avocats qui, semble-t-il, a repris tout le dossier, s'est remis à faire des interviews. Wait and see.
Fabien Unenberger, merci pour avoir changé aussi l'espace d'une émission de peau, d'être passé de la peau du journaliste à la peau du témoin qui nous raconte ce destin, puisqu'on n'a pas pu l'enregistrer sur place, on n'a pas eu l'autorisation. Je vous rappelle notre page internet, c'est religion.rsr.ch. Vous y trouvez diverses informations sur le problème de la condamnation à mort, de la peine de mort, mais aussi les différentes manifestations, événements organisés le 30 novembre en Suisse romande autour de l'abolition de la peine de mort. Et puis si vous voulez réagir à ce sujet, notre numéro de téléphone, c'est le 021 318 60 70, 021 318 60 70. There's a pale horse coming, and I'm gonna ride it. I'll rise in the morning, my fate decided. Dead man walking. I'm a dead man walking. In St. James Parish, I was born and christened. Now I've got my story, Mister. Ain't no need for you to listen. Dead man talking. Once I had a job, I had a girl. But between our dreams and actions lies this world. In the deep forest, their blood and tears rushed over. All I could feel was the drugs and the shotgun and my fear up inside of me, like a dead man talking. Beneath the summer sky, my eyes went black. Sister, I won't ask for forgiveness.
my sins are all ahead. And the clouds above my prison move slowly across the sky. There's a new day coming, and my dreams are full tonight.
C'était Bruce Springsteen avec Dead Man Walking.
Haute fréquence, le son des religions.
Du 6 au 9 novembre a eu lieu le premier forum chrétien mondial. C'était près de Nairobi, au Kenya. Michel Cocher, bonsoir.
Bonsoir Nathalie.
C'est avec vous qu'on va parler de ce premier forum chrétien mondial. Alors vraiment, du côté du chrétien, chez les chrétiens avertis, ça a vraiment fait l'effet quasiment d'une bombe. Alors positive la bombe, dans le sens où c'était la première fois qu'autant de chrétiens qu'on qualifie d'évangéliques, charismatiques, pentecôtistes, réunissaient les églises historiques. Alors, en quoi c'est tellement une première, Michel Cocher?
Jusqu'à présent, ces familles du christianisme, vous parliez des évangéliques ou de la famille pentecôtiste, n'étaient pas présents dans la plupart des grands rassemblements, qu'ils soient conviés par l'Église catholique ou qu'ils soient conviés par le Conseil œcuménique. Ils s'en méfiaient, ils s'en distançaient. Donc là, ils sont présents. C'est important parce que ça représente une force du christianisme, mettons relativement récente. Hein, c'est début du XXe siècle, leur création et leur rayonnement, mais c'est une famille du christianisme. En plus, qui rayonne beaucoup dans le Sud, et on sait que le Sud représente d'une certaine manière l'avenir de la chrétienté, en termes aussi quantitatifs, donc c'est tout un pan de la chrétienté qui était présent, qui se mettait à discuter.
Mais expliquez-nous pourquoi justement les évangéliques, les pentecôtistes, entre guillemets, snobaient un peu les églises institutionnelles jusque-là. Pourquoi? Parce que c'était les nouveaux venus qui voulaient faire la révolution, pourquoi?
C'est assez facile à comprendre. Je pense que ces églises ont peur, elles ont toujours peur de se faire avaler. Mmh. C'est-à-dire que ce sont des églises récentes par rapport à l'histoire, face au catholicisme qui évidemment considère face aux églises historiques de la Réforme, ils avaient peur de se faire avaler, si vous voulez, d'entrer dans une sorte d'immense institution dans laquelle ils ne pourraient plus exister avec leur spécificité. Ça, c'est une chose. Et puis, l'autre chose qu'il faut dire, ces églises ont toujours été méfiantes par rapport aux engagements dits politiques, notamment du Conseil œcuménique des églises, préférant un évangile, disons, du salut de l'âme, pour parler comme ça, de façon un peu caricaturale.
D'accord, donc à Nairobi en ce début novembre, 240 représentants de haut niveau de toutes sortes d'églises, y compris justement ces églises plutôt nouvelles, évangéliques, pentecôtistes, charismatiques. Alors vous avez rencontré quelqu'un qui connaît très très bien la diversité du christianisme justement.
Oui, j'ai rencontré Hubert van Beek, c'est un ancien collaborateur du Conseil œcuménique qui a beaucoup voyagé, qui a contribué à préparer différentes assemblées, dont notamment la grande assemblée de Porto Alegre du Conseil œcuménique où il a essayé de faire venir ces fameux pentecôtistes. Ça n'a d'ailleurs pas été un grand succès à Porto Alegre, nous en avions parlé en son temps. Alors Hubert van Beek, c'est vraiment le type qui a un agenda, j'aimerais bien avoir le sien pour parler franchement comme journaliste, c'est-à-dire qu'il connaît un nombre de personnes considérables et surtout il inspire la confiance et il met les gens en confiance. Et c'est grâce à son travail de plusieurs années que les gens ont accepté de venir se parler. Alors je l'ai rencontré tout simplement chez lui à Versoix. Puis je lui ai demandé d'abord ce qu'il gardait comme image dominante de ce rassemblement.
Je crois que l'image marquante de cette réunion, c'était plutôt dans les groupes. Donc on avait 230 personnes environ là-bas et on les avait répartis dans 8 groupes d'environ 25-30 personnes. Parce que c'est dans ces groupes qu'on a commencé par le partage des ce qu'on appelle les itinéraires de foi des participants. Et ça, c'est une méthodologie qui a été développée par le forum depuis des années maintenant. Et nous commençons toutes nos réunions. Et c'est vraiment ça qui fait le plus d'impression aux participants qui sont là pour la première fois.
Ça veut dire qu'il faut raconter sa vie. Si on est un évêque, si on est un responsable d'église, on arrive, puis la première chose qu'on vous demande, c'est de raconter votre vie, si je force le trait.
Oui, raconter sa vie, c'est plutôt raconter, partager avec les autres son cheminement avec le Christ. Hein? Quel est le cheminement de notre foi, de notre vie? Quelles sont les étapes? Comment est-ce qu'on a rencontré la foi chrétienne? Pour certains, c'est quelque chose de tout à fait qui est venu pratiquement avec la naissance. naissance, quoi, avec le lait maternel. Pour d'autres, ça a été une expérience très profonde, un vrai changement dans leur vie. Mais ce qui est assez extraordinaire, c'est que dans ces réunions du forum, une fois qu'on invite les gens à ce partage, et il faut dépasser un peu les hésitations du début, les gens sont très, très touchés, très reconnaissants d'écouter les uns les autres et de reconnaître dans le cheminement des autres souvent ce qu'ils ont vécu eux-mêmes aussi, peut-être d'une autre manière, à une autre époque, dans une autre situation. Mais il y a à la fois donc la similitude de nos itinéraires et en même temps l'énorme diversité donc, qui sort quand on demande aux gens de participer à un tel exercice. L'impulsion est venue par une réflexion que le Conseil communique avait faite dans les années 90, hein, quand elle a fêté ses 50 ans. Et quand on s'est rendu compte que le rêve ou la vision qui était à l'origine de l'œcuménisme au début du XXe siècle et qui était de réunir tous les chrétiens, toutes les églises dans un mouvement de réconciliation et de recherche de l'unité, quand on s'est rendu compte que ce rêve ne s'est pas réalisé. Hein. À la fin du XXe siècle, il a fallu se rendre compte que les églises étaient toujours très divisées, et notamment entre d'un côté le mouvement œcuménique et les églises qui participent, y compris l'église catholique romaine, même si elle n'est pas membre du conseil œcuménique, elle participe pleinement au mouvement œcuménique, et de l'autre côté les églises et les groupes qui font partie de ce qu'on appelle le mouvement évangélique pentecôtiste charismatique. Alors, c'est ce fossé, cette séparation, cette division entre ces deux grands courants, en quelque sorte, hein, qui a incité les responsables du Conseil œcuménique, et notamment Conrad Reiser, à dire « il nous faut une autre voie ». On se rend compte que le Conseil œcuménique ne peut plus répondre à ce défi, parce qu'il n'a pas réussi depuis 50 ans, donc il n'y a pas raison de croire que tout d'un coup il serait capable de le faire. Hein. Il nous faut élargir le champ et trouver une autre voie pour construire une discussion, une conversation. C'est de là qu'est venue l'idée, c'est de là qu'on a pris l'initiative d'inviter des dirigeants pentecôtistes évangéliques, d'abord à une petite réunion d'une trentaine de personnes, qu'on a tenu aux États-Unis au séminaire de théologie Fuller à Pasadena, Californie, qui est vraiment un bastion de la théologie évangélique pentecôtiste. Et là, ça c'était en 2000, il y a eu une affirmation très forte de l'idée. Hein, ça nous a beaucoup encouragés. C'était ces dirigeants qui avaient accepté l'invitation de venir, ce qui veut dire quelque chose, parce qu'ils savaient que l'invitation venait entre autres du Conseil œcuménique. Ensemble avec les catholiques et les orthodoxes, on était là, et il y a eu une oui très, très ferme, en disant oui, essayons, il est temps de dépasser ces divisions qui nous viennent du passé, du XXe siècle.
Un mot sur les réticences. Vous avez rencontré des réticences, j'imagine, de part et d'autre. En résumé, lesquelles sont-elles ?
Alors, des réticences, il y en a. Au sein du mouvement œcuménique, il y a ceux qui sont sceptiques, qui ont tendance à dire « tout ça c'est très beau, mais c'est de l'énergie perdue parce qu'à la fin ça ne donnera pas grand-chose ». Il y a ceux qui sont assez sévères dans leur jugement et qui pensent que les églises évangéliques et pentecôtistes sont uniquement intéressées dans ce qui est spirituel et n'ont pas vraiment un intérêt pour le témoignage de l'église dans les autres domaines de la vie. Là, ils se trompent parce que les signes sont très clairs et il y a certainement au sein du monde évangélique un changement qui est en train de se faire, qui est remarquable vraiment. Et où, je pense, les œcuméniques et les évangéliques, si je peux utiliser ces termes, pourraient trouver des domaines où la coopération serait tout à fait possible, si la volonté y était. Mais des réticences, il y en a eu aussi, il y en a toujours dans le camp évangélique et pentecôtiste. Je crois que plus on va vers des groupes qui sont vraiment fondamentalistes dans leur attitude, moins il y a une volonté de se mettre avec d'autres autour de la table. Ça, il faut l'admettre. Et nous avons toujours dit, nous invitons, nous expliquons de quoi il s'agit, nous sommes totalement transparents en expliquant, par exemple, qu'autour de la table, il y aura des gens représentants du Conseil œcuménique, il y aura des gens de l'Église catholique, Et l'invitation est, est-ce que vous acceptez de prendre votre place?
Alors dans le forum, on a retenu, en tout cas des échos, des agences, ce fameux discours d'un missiologue coréen, Woon Suk Ma, je ne sais pas si je prononce juste, hein, qui a souligné cette opposition, et vous allez nous dire si elle vous paraît aussi importante que ça, entre d'un côté les chrétiens qui s'intéressent à la vie après la mort, grosso modo les pentecôtistes, les évangéliques, etc., et puis les chrétiens qui s'intéressent à la vie ici, les églises historiques, le catholicisme, etc. Est-ce que c'est juste, cette évaluation est juste, et est-ce qu'on peut la dépasser?
Je crois qu'il a touché une question de fond en forçant un peu le trait, évidemment. C'est ce qu'il a dit lui-même aussi dans son exposé. Mais il a fait exprès de forcer le trait pour bien marquer donc, la différence qui est là. Et pour inviter des deux côtés qu'on dépasse ces positions figées pour accepter ou pour réaccepter peut-être que la mission de l'Église est à la fois un message de salut qui a une valeur au-delà de la vie sur Terre et qui en même temps est un message qui s'adresse à la société, à la politique, à l'économie, à toutes les questions qui nous préoccupent dans nos vies ici, avant la mort.
Pourtant, si on pense à l'orthodoxie, par exemple, on aurait plutôt spontanément envie de la mettre du côté de ceux qui pensent, mettons, à la vie après la mort, l'orthodoxie étant très spiritualisante et au fond pas très en avant sur les fonds du social, par exemple. Alors est-ce que les orthodoxes se sont rencontrés, se sont un peu trouvés avec certains courants évangéliques ou pentecôtisants?
Les orthodoxes et les pentecôtistes et les évangéliques, c'est une relation à la fois de reconnaissance, on se reconnaît hein, dans l'affirmation de certaines vérités de base où maintenant beaucoup d'églises orthodoxes, même par rapport aux églises protestantes traditionnelles, ont tendance à affirmer certaines choses parce qu'ils ont l'impression que les églises protestantes se perdent un peu dans le libéralisme théologique. Hein. Et en même temps, entre les orthodoxes et les évangéliques et les pentecôtistes, il y a un fossé énorme parce que sur le plan de l'ecclésiologie, d'être l'Église, alors les différences sont telles qu'on se demande comment on peut dépasser cela.
Hubert van Beek, à lire le message final, cette invitation à tous les chrétiens à prier pour que toute l'humanité puisse connaître la plénitude de vie en Christ, hein, je cite quasi, on a le sentiment que c'est une sorte de machine à évangéliser, à christianiser la planète, qui est en train, bien sûr tout à fait simplement pour l'instant, mais qui est en train de se mettre en place. Est-ce que c'est bien ça la nature de ce forum ?
Le forum, à l'origine, est né de la recherche de l'unité, qui est l'objectif du mouvement œcuménique. Mais quand nous avons commencé à nous mettre autour de la table, on s'est vite rendu compte que dans les milieux évangéliques pentecôtistes, le souci de l'unité est là. Souvent, on affirme que l'unité existe déjà, que c'est une unité spirituelle, invisible, mais qui est là. Et certainement, ce souci est mis en équilibre avec le souci de l'évangélisation de la mission, hein, qui reçoit une accentuation beaucoup plus grande que dans les églises historiques protestantes et les autres églises. Donc là, il y a une vraie différence qu'il faut accepter. Et donc, au sein du forum, nous avons accepté qu'il y a en quelque sorte deux points focaux, hein, l'unité et la mission. Et dans le message, je crois que les deux sont exprimés. Maintenant, il ne faut pas oublier, on l'oublie un peu trop vite, que le mouvement œcuménique au début du XXe siècle avait la même vision et que quelqu'un comme John Mott, qui était un grand pionnier du mouvement œcuménique, avait pour slogan « Le monde entier pour Christ au bout du siècle ». C'est-à-dire que lui, il avait une vision que 100 ans plus tard, à la fin du XXe siècle, le monde entier serait gagné pour le Christ, ce qui ne correspond pas à la réalité. Et je crois donc que ceux qui portent encore cette vision hein, et qui y croient et qui, en tout cas, voient cela comme une tâche primordiale de la communauté chrétienne, il faut respecter cela. Hein. Et il faut voir avec, je crois qu'il faut voir tous ensemble, donc, hein, quelles sont les différentes dimensions de la mission chrétienne. Une de ces dimensions, c'est d'annoncer la bonne nouvelle en Christ à tous. Mais il y a d'autres dimensions aussi. Et c'est là qu'on peut se corriger mutuellement et se compléter mutuellement aussi.
Vous me tendez la perche pour une autre question concernant le mouvement œcuménique, entre guillemets, classique, le conseil œcuménique. Est-ce que c'est la fin de ce mouvement-là qui va, au fond, être réassumé par le forum, puisque les objectifs sont apparemment, pour une large part, convergents?
Je ne crois pas. En tout cas, ce n'est pas du tout mon souhait, ce n'est pas mon objectif en tant que secrétaire de ce Forum chrétien mondial. Nous avons toujours dit que nous ne voulons pas construire une nouvelle organisation, nous ne voulons pas devenir une nouvelle institution. Le Forum, en tout cas pour le moment, doit rester un mouvement. Nous ne voulons pas, et ça a été dit aussi par les orthodoxes et les catholiques notamment à Nairobi, le but n'est pas de faire table rase de tout ce qui a été fait par le mouvement œcuménique. Il faut continuer avec ces instruments qui sont là, qui sont en place, peut-être même en inventer d'autres. Le forum est une nouvelle dimension qui est en train d'aborder un terrain où le mouvement œcuménique n'était pas en mesure d'avancer. Et dans la mesure où le forum peut faire ce travail, il peut servir le mouvement œcuménique. En même temps, il faut garder à l'esprit que le mot même œcuménique a mauvaise presse dans certains cercles évangéliques et pentecôtistes. Et il faut tenir compte de cela. Donc il ne faut pas non plus donner l'impression que le forum est en quelque sorte un cheval de Troie qui cherche à faire entrer les évangéliques et pentecôtistes dans un mouvement dont ils ne veulent pas.
Van Beck, il est le secrétaire du Forum chrétien mondial, Forum chrétien mondial premier du nom, qui a eu lieu en ce début novembre près de Nairobi au Kenya. Michel Kocher, alors suite à ces quelques jours de rassemblement, 240 délégués de toute la diversité des églises chrétiennes, anciennes et nouvelles, on peut dire qu'il y a des résultats concrets déjà à ce grand forum mondial ?
Il faut peut-être évaluer les résultats en fonction des ambitions. L'ambition principale, c'est de mettre les gens ensemble pour qu'ils se parlent. On l'a compris aussi pour qu'ils disent comment ils vivent leur foi chrétienne. Alors, à l'aune de cette ambition, on peut dire que le résultat, il est là.
Mais si on regarde des choses de l'extérieur, qu'est-ce qui reste de ça ?
Il reste un esprit, un état d'esprit, une façon d'être ensemble qui va devoir rayonner dans d'autres cercles. Amérique latine, par exemple, où catholiques et pentecôtistes ne se parlent pas, sont un chien de faïence, souvent, eh ben, on peut imaginer que grâce à l'esprit de ce forum, ils auront voies et moyens pour arriver à se parler, à se reconnaître et peut-être à ne pas se juger. On peut multiplier ça par tous les endroits de la planète où il y a cette diversité du christianisme. Donc c'est assez prometteur, mais ça va fonctionner extrêmement lentement, à la mesure d'ailleurs de cette institution, qui n'en est pas une, puisque Hubert van Beck est le seul à travailler à mi-temps pour tout ce dispositif. Donc, vous voyez que c'est vraiment très peu institutionnel. C'est d'ailleurs la demande de ce christianisme pentecôtiste évangélique. Pas trop d'institutions, s'il vous plaît. Surtout du témoignage de la vie.
Un peu comme le Forum social mondial, ce côté très, très informel.
Oui, il y manque encore le côté populaire, vraisemblablement. C'est que là, ce sont des élites qui apprennent à se faire confiance. Puis après, on verra bien si ça peut redescendre dans des états-majors, si vous voulez, à la base.
Mais est-ce que le but, on peut dire quand même que bon, maintenant, si les chrétiens se parlent davantage, notamment entre anciennes églises et nouvelles églises, bah, quelque part, le but de la mission d'évangéliser le monde, la planète, ça va mieux.
Mais écoutez,
aller dans ce sens-là.
C'est la même chose qu'ici en Europe ou protestants et catholiques sont ensemble. Pourquoi est-ce qu'ils sont ensemble ? Parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils peuvent témoigner de leur foi, accompagner les gens, être présents. Ils le font mieux quand ils sont ensemble, c'est plus crédible, tout simplement.
Merci Michel Kocher. Si ce forum chrétien mondial qui s'est tenu au début du mois de novembre vous intéresse, eh bien on vous renvoie sur notre page internet, c'est religion.rsr.ch. Et puis, vous pouvez toujours nous appeler pour nous faire part de vos remarques ou nous poser des questions. C'est le 021 318 60 70, 021 318 60 70.
Se nan jodi ndela bembe nan bale maman tutu ndela mbapo nay nay yete nan landu tutu di kusinode
Laila, c'était Richard Bona. Haute fréquence, c'est bientôt terminé. Je profite de remercier toute l'équipe qui signe cette émission. Jean-Philippe Zwallen pour la réalisation. Patrick Lenoir était en régie ce soir. Il y reste d'ailleurs. Fabien Hunenberger, Michel Cocher et Nathalie Bleuch pour la partie rédactionnelle. Si vous voulez réagir à cette émission, on vous attend comme toujours sur notre répondeur au 021 318 60 70. 021 318 60 70. Je vous rappelle que Haute fréquence est podcastable et si vous voulez être tenu au courant des sujets traités semaine après semaine dans notre magazine, eh bien vous nous contactez via notre page internet, c'est religion.rsr.ch. Et puis sachez que cette semaine, sur Espace 2, tous les jours, du lundi au vendredi à 16h30, à l'enseigne d'Avue d'Esprit, Jean-Christophe Emery vous propose une série pour un Dieu plus vert. Vous le savez, le vert monte en politique, il s'affiche aussi en religion. Certains écologistes développent un rapport à la nature teinté de réflexions spiritualisantes. Les chrétiens se mobilisent de plus en plus pour contribuer à éveiller les consciences aux responsabilités vis-à-vis de la création. Un vaste débat. Jean-Christophe Emery vous propose d'en parler tous les jours, donc sur Espace 2, à Vue d'Esprit, à 16h30. Et il vous propose quelques pistes de réflexion avec des spécialistes. Mais là, on écoute Pauline Croze.
T'es beau parce que t'es courageux de regarder dans le fond des yeux celui qui te défie d'être heureux. T'es beau comme un cri silencieux, vaillant comme un métal précieux qui se bat pour guérir de ses bleus. C'est comme une rengaine, quelques notes à peine qui forcent mon cœur, qui force ma joie quand je pense à toi. À présent, j'ai beau me dire qu'au fond c'est mieux, même si c'est encore douloureux, je n'ai pas de recoin silencieux. C'est beau parce que c'est orageux, avec ce temps je connais peu les mots qui traînent au coin de mes yeux. C'est quelques notes en peine qui forcent mon cœur, qui forcent ma joie quand je pense à toi. Toi qui sors de scène sans armée, sans haine. J'ai peur d'oublier, j'ai peur d'accepter, j'ai peur de vivre à présent.
Infotrafic RSR
avec La Pomme Tentation.
Dans le canton de Fribourg à Pozieux, la route de Fribourg est toujours interdite à toute circulation suite à un accident. Une déviation est signalée. L'équipe de haute fréquence vous salue. Je vous rappelle notre numéro de téléphone 021 318 60 70. Au-delà des informations, c'est le meilleur des mondes. Merci de votre fidélité. Une très belle suite de soirée sur la première. Il est 21h.
RSR, Jacques Valoton.
Super G à Lake Louise au Canada. Après le passage de 35 coureurs, Didier Kuch occupe la troisième place derrière le Norvégien Axel Svindal et l'Autrichien Benjamin Reich. Bon tir groupé des Suisses puisqu'on trouve encore à la sixième place Ambrosi Hoffmann et à la neuvième Didier Defa.